Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue particulièrement à nos frères et sœurs qui viennent du diocèse d'Avignon. Ce soir, leur sainte sera animée notamment par le père Paco, qui vient du diocèse d'Avignon, curé de la paroisse Saint-Agricole. Nous lui souhaitons une bonne arrivée ici avec ce groupe de pèlerins d'Avignon. Nous allons commencer dans quelques instants cette heure sainte. Elle sera donc en deux parties avec l'enseignement du Père Paco et après une méditation que nous ferons avec les textes du Padre Pio. Et nous sommes en communion aussi avec tous les auditeurs et auditrices de Radio Espérance ce soir. Nous leur souhaitons une bonne soirée ici à la visitation de Parelmonial avec les sœurs.
Dans ce cycle d'heures saintes, la communauté est en train de méditer la prière sacerdotale de Jésus. Et pour ce soir, nous allons méditer deux versets, ou trois versets, de Jean 17, 17 à 19. Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés dans la vérité. Ces mots, Jésus les dit dans la dernière scène, dans la prière sacerdotale que Jésus fait après l'institution de l'Eucharistie, l'élèvement des pieds, et juste avant de partir à Gethsémani. Et dans cette prière, et spécialement dans ces versets, nous sommes invités à entrer au cœur de ce que Jésus vit dans son rapport au Père et dans son rapport à nous. Il nous invite à la prière tel que Jésus est en train de la vivre aujourd'hui pour son Église. La prière sacerdotale n'est pas un événement que Jésus a vécu lors de la dernière scène, c'est la prière du grand prêtre, du sacerdoce de la Nouvelle Alliance, qu'il vit en permanence dans son rapport au Père, cette demande pour nous et pour l'Église. Saint Jean-Paul II, dans la lettre aux prêtres de l'année 1987, il disait que la prière sacerdotale, la prière eucharistique de Jésus, et après la prière de Gethsémani, avaient une relation très forte. Parce qu'il disait, Jean-Paul II, en invitant à tous les prêtres du monde à prier, à ne pas s'endormir dans la prière, mais à prier vraiment, il nous disait que Jésus, dans la dernière scène, il vivait d'une façon sacramentelle l'union, l'implication qu'il a avec chacun de nous et avec chaque homme. Mais à Gethsémani, il vivait d'une façon existentielle, c'est-à-dire dans sa peau, dans sa chair, dans son cœur d'homme, ce qu'il avait vécu d'une façon sacramentelle dans la dernière scène. Le pape, dans cette lettre, nous invitait à tous les prêtres du monde à faire notre cette prière de Jésus. Et il nous invite, encore aujourd'hui, à ce que l'Église, bien sûr, tous les prêtres, mais bien sûr aussi tous les baptisés, que nous soyons réveillés quand il nous invite, comme à Pierre, Jean et Jacques, à l'accompagner dans sa prière. Et accompagner Jésus dans sa prière a une importance très grande dans les moments dans lesquels nous sommes dans l'Église. Il y a des moments très différents dans la vie de l'Église, mais ici où nous sommes, en France, Et dans l'Église universelle, on vit des moments très spéciaux dans lesquels rester endormi, ça c'est le pire des mal qui peut nous arriver. Rester endormi comme s'il ne se passait rien, quand le Seigneur nous fait savoir qu'il se passe des choses dans son corps, rester endormi en restant tétanisé, sans trop savoir quoi faire, rester endormi en se laissant entraîner par la colère. L'Église est invitée, et nous sommes invités ce soir et dans ce temps, à être éveillés à la prière de Jésus. Les saints sont les amis éveillés qui osent prier avec lui et qui osent entrer un petit peu. Nous sommes très pauvres, mais l'Esprit Saint nous aide à entrer un petit peu à ce que Jésus vit dans son cœur. De l'intérieur, d'y manque, et de l'intérieur des situations les plus difficiles, peut jaillir une Église purifiée, à condition de comprendre comme des amis. L'amour du Seigneur n'est pas impuissant, il est capable de régénérer de l'intérieur tous les cœurs de l'Église. Venez, priez avec moi, entrons dans ce verset qui cache la merveille de la transformation de cœur. Nous approcher un peu de la prière de Jésus, spécialement dans ce verset où l'on trouve justement ces clés que le Seigneur veut nous offrir pour le moment dans lequel nous sommes. Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. C'est une prière et une supplication au Père, mais une prière qui va unir à toute la chair de Jésus, à toute sa liberté et à toute sa volonté impliquée pour chacun de ses enfants. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. C'est le cœur de la mission de Jésus et c'est le cœur de la mission que le Seigneur ressuscité dira à ses disciples et nous dit à chacun de nous, selon le Concile Vatican II, en Lumen Gentium 17, tous les baptisés, nous écoutons d'une façon personnelle cette phrase de Jésus, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient et aussi sanctifiés dans la vérité. Derrière ces phrases, se cache un trésor merveilleux auquel Jésus voulait introduire ses disciples. Quelques versets auparavant, leur a dit, « Cela, je vous l'ai dit, pour que votre joie soit complète. » Entrez dans les difficultés de l'Église et du monde en sachant qu'étant unis à Jésus, on va participer d'une joie transfigurée et le cœur de la méditation de ce que Jésus voulait nous donner. Voudrez-vous entrer dans le cercle vertueux de la consécration à la mission comme moi je l'ai vu? Voilà l'essence de ces paroles. Marie, elle peut nous aider beaucoup à vivre cela. Selon Catherine Emmerich, la bienheureuse Catherine Emmerich, Marie était présente dans la scène, même si ce n'était pas directement dans la même table que les apôtres. Donc elle a entendu la prière sacerdotale de Jésus. Et Marie aussi était présente à Gethsémani, pas directement. Elle était quelques mètres un peu plus haut à Béthanie et elle sentait dans une communion de cœur. Elle restait éveillée à la prière de son fils. Marie est celle qui a consenti par amour à la passion de Jésus. Et Marie est celle qui va nous aider à tirer en partie pour nos vies de ser resté éveillé devant ce mystère d'amour et cette mission à laquelle Jésus voulait introduire les siennes. La façon dont Jésus comprend la mission dans ces versets et dans toute la prière sacerdotale est trinitaire. Et cela n'est pas un concept théologique, cela est une réalité qui peut nous atteindre profondément. C'est très différent vivre la mission comme une fonction. C'est très différent vivre la mission comme une réponse à un besoin. C'est très différent vivre la mission comme un métier que vivre la mission comme un rapport d'amour. Il y a un rapport d'amour qui n'arrête jamais d'être présent lorsque le Seigneur, comme des amis, nous invite à être envoyés, mais pas oublier que nous sommes en permanence dans un rapport d'amour avec notre Seigneur. Cela, le pape Jean-Paul II le disait à sa façon dans la Redemptoris Missio. Être missionnaire n'est pas une affaire simplement des besoins d'une Église qui vit dans un monde sécularisé. Être missionnaire, c'est développer pleinement ma vocation humaine. Et le pape François, dans l'Evangelii Gaudium, numéro 10, le dit de la même façon. Être missionnaire, c'est pour rejoindre les fibres les plus profondes de mon cœur d'homme. Mais comment cela peut-il être vrai dans notre vie? Cela est l'essence le plus profond de ces paroles de Jésus dans sa prière au Père. Je me consacre pour qu'ils découvrent dans leur vie le même dynamisme qui se passe dans la mienne. Se consacrer, c'est pas un affaire extérieure ou imposé par l'extérieur, c'est une réalité d'amour dans laquelle, à fur et à mesure qu'on avance et qu'on le vit, on se découvre plus pleinement soi-même. Et alors là, on découvre quelques phrases de ce que Jésus et Marie veulent nous introduire pour vivre la mission comme cela. D'abord, entrer dans l'école d'Isaba. Ça, c'est très bizarre, vous comprendrez immédiatement. Jésus, il faisait toujours des miracles en Shabbat. À moi, toujours, ça me plaisait vraiment, non? Surtout dans mon époque un peu plus révolutionnaire, non? Alors je pensais que c'est très bien. Chaque fois que Jésus se levait de bon matin, regardait que c'était Shabbat, il regardait s'il y avait des pharisiens dans les parages, et boum, miracle, non? S'il n'y avait pas de pharisiens, il en faisait pas, non? C'est très intéressant, pourquoi? Parce que Jésus ne voulait pas du tout, mais absolument pas, abolir le Shabbat. Il voulait lui donner accomplissement. Ça, je l'ai appris dans le premier livre de Jésus de Nazareth du pape Benoît XVI, dans lequel il nous disait une chose merveilleuse. Le Shabbat est le cœur même de cette relation d'Israël au Seigneur, dans laquelle Jésus, il ne songeait pas du tout à l'abolir, il voulait nous introduire. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat pour Israël? C'est justement perdre du temps pour découvrir que Israël, c'est-à-dire chacun de nous, nous sommes la prunelle des yeux de notre Dieu. En fait, encore, il y a des communautés qui reprennent la liturgie juive et ils font le vendredi soir l'entrée du Shabbat habillé comme un fiancé. Parce que le Shabbat, c'est le temps de fiançailles. Temps de fiançailles que signifie oser la relation amoureuse avec Dieu. Et tant de fiançailles que signifie croire que de l'autre côté, c'est pour ça qu'on prend du temps en Israël pour les jours du Shabbat, et parfois on reste attentif si on ne peut pas allumer la lampe, s'il ne faut pas faire trop de mètres, non? Et tout ça, la caricature que nous faisons en général les chrétiens des juifs n'est pas exactement le sens que la Bible donne du Shabbat. Shabbat signifie oser perdre du temps pour découvrir et accueillir que Dieu est amoureux de moi. Et ça demande un peu de temps. Cantique des cantiques. Elle était recroquevillée au creux du rocher, et le Seigneur vient jusqu'au creux du rocher pour me dire, lève-toi ma belle, laisse-moi voir ton visage, laisse-moi entendre ta voix, parce que ta voix est douce et ton visage est beau. Et alors, l'homme pragmatique que nous sommes, on dit, Seigneur, on va vous acheter des lunettes. Parce qu'en réalité, on est tellement habitué à se renvoyer des images négatives sur nous-mêmes, on est tellement habitué, si ce n'est pas nous qu'on se le dit, le voisin, mon papa, mon patron, tu es nul, un mot que j'entends en France plus qu'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nul, parce que si vous n'êtes pas au top, vous êtes nul. Et cela est aux antipodes de l'Évangile. Parce que ma pauvreté regardée par Dieu, c'est une école qui m'amène plus loin. Mais ma pauvreté regardée avec mes propres yeux centrés sur moi-même, ça me rend nul, tout en ayant des talents incroyables que le Seigneur nous donne, surtout quand on est ouvert à lui. Perdre du temps pour les Shabbat, et justement croire que Dieu nous donne un nom nouveau. Cette phrase n'est pas mienne. Et de Jésus dans la prière sacerdotale, deux versets avant, où il dit, Père, garde-leur en ton nom, le nom que tu m'as donné. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou c'est une phrase tellement compliquée qu'on ne sait pas trop ce que dit. Oui, vous allez regarder Isaïe 62, dans la Bible, vous l'avez, c'est merveilleux, Isaïe 62, et c'est un texte qu'on applique souvent à la Vierge Marie. On t'appellera plus, on te donnera un nom nouveau prononcé par la bouche du Seigneur. On t'appellera plus abandonné, ni ta terre sera plus délaissée. Le Seigneur fait de toi sa préférence, et ta terre sera épousée. La joie qu'il a le fiancé avec son épouse, l'aura ton Dieu avec toi. Ou ça, le Seigneur avec Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, oui, mais avec moi. Voyez un peu. Perdre du temps a dépassé mon premier regard pour découvrir qu'il y a un vrai échange d'amour personnel de Dieu avec ma vie. Jésus, comme vous comprenez, n'est pas venu abolir le Shabbat. Il est venu lui donner accomplissement. Et c'est quoi l'accomplissement? Ça se trouve dans ces trois versets que nous venons de lire. Qu'est-ce que c'est que l'accomplissement? Puis-je vivre la mission comme un rapport d'amour avec mon Seigneur? Puis-je vivre le travail au service des autres, en découvrant que mon époux me paye très bien? Puis-je découvrir que vivre au service de l'Église, donner de moi-même pour les autres, travailler pour cette Église qui parfois est difficile et qui paye si mal? Puis-je découvrir qu'il y a quelqu'un qui m'aime à la folie et que par pur amour m'invite à être la joie de son cœur, la joie qui a le fiancé avec son épouse, l'aura ton Dieu avec toi, il se réjouit avec toi. Savez pourquoi cette école de Shabbat est si importante? Moi, sincèrement, dans ma vie missionnaire, et ça fait déjà 32 ans que je suis en route, j'ai vu beaucoup de missionnaires et beaucoup de personnes impliquées dans la mission, mais avec le cœur grillé, excusez-moi. grillé de travailler sans arrêt et pas être payé au plus profond de leur cœur. Après ça, cherche des compensations partout, mais le problème, c'est pas faire une police contre les compensations. Jamais on aura assez de policiers pour voir tous ces machins. C'est des cœurs qui perdent du temps pour découvrir que leur Dieu est capable de remplir leur cœur d'homme, leur cœur de femme, leur cœur de personne assoiffée d'amour, comme la femme de Samarie. Et le Seigneur ne lui a pas fait la leçon d'abord, il lui a dit: ton intérieur est beaucoup plus habité de ce que tu imagines. Les siennes et les miennes. Les siennes et celui de tous les missionnaires du monde. J'oublierai jamais Saint Jean-Paul II dans une messe chrismale à Rome, et que dans l'Observatoire romain est à Paris l'homélie qu'il avait faite. Mais dans l'église de Saint-Pierre, où on concélébrait avec beaucoup d'évêques, cardinaux et de prêtres, il n'a pas pu prononcer quoi que ce soit. Dans les journaux de ce matin même, le Diario La Repubblica, en Italie, est apparu en première page un évêque qui ne vivait pas comme il fallait. Il a commencé l'homélie et s'est mis à pleurer. Est-ce que le Christ ne peut pas remplir nos cœurs de prêtres? Pleurer, c'est fini, l'homélie. Mais cela nous renvoie à ce que c'est que le Shabbat. Parce que quand Jésus dit « je me consacre », ne dit pas « je vais travailler davantage ». Si se consacrer, c'est encore remettre le boulon à l'air un peu plus, un peu plus, un peu plus, et un jour que ça va pas. Si se consacrer, c'est perdre du temps pour découvrir la folie d'amour dont je suis aimé. Perdre du temps pour découvrir que je suis la joie de mon Dieu. Perdre du temps pour découvrir que je suis très bien payé. Il y a quelque chose du cœur qui va plus loin. Et c'est quelque chose, c'est l'Esprit Saint. C'est pour cela que je me consacre. C'est ma consécration. Et je vais la donner justement parce qu'en réalité, si... Et là, c'est un grand de Bourguignon, que c'est un grand ami aussi, et que j'aime beaucoup. Il s'appelle Elisabeth de la Trinité, Elisabeth Cathès. Et c'est impressionnant parce que dans la lettre supérieure dit un peu le sens le plus beau de ce que Jésus dit dans ces trois versets. Elle disait à sa supérieure: quand il ira ces lignes, je serai déjà dans la maison du Père et je crois que j'aurai une mission à accomplir dans ton cœur. Quelle mission? La mission de te faire comprendre, te faire comprendre. Voilà la prière de ce soir. Te faire comprendre l'essence des paroles de Jésus à Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? Ma mission va être de te faire comprendre le vrai sens de ces paroles. Et lui dit Elisabeth à sa supérieure, elle lui dit: laisse-toi aimer plus que ceci. C'est le cœur du Shabbat. Laisse-toi aimer plus que personne par ton Dieu. Ah non, non, le Seigneur. Vous savez, toutes les résistances qui apparaissent sont celles qui sont essentielles pour entrer dans la prière de Jésus. Si on ne dépasse pas ces résistances, on ne comprend pas comment Jésus parle de consécration comme une joie complète. Pas vrai. Si à l'intérieur de ces « laisse-toi aimer plus que ceci », alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimé plus que personne par mon Dieu? Et dans cette lettre, continue Elisabeth, tu dois offrir tes péchés. Parce qu'attention, ce n'est pas avec une espèce de purification extérieure que les choses vont s'arranger dans notre Église. C'est pas simplement de l'extérieur en disant « Personne fait ce qu'il fait ». Ça, c'est facile à dire, mais après... C'est plus dans un surplus de rejoindre le mystère du cœur de l'amour du Seigneur, de l'amour infini dont il m'aime, pour trouver des ressources capables de faire de ma vie témoin d'une chasteté joyeuse. C'est là quand, dans la mission même, dans l'acte même de servir le Seigneur dans mes frères, c'est ça ce que Jésus dit dans ce verset, dans l'acte même de pouvoir être témoin de Jésus pour ceux dont ils ont besoin. Et alors là, ce qui se passe, c'est que un deuxième axe qui va avec et que Marie nous aide à entrer, vous savez pourquoi on utilise toujours Isaïe 62 pour parler dans les fêtes de Marie? Parce qu'en réalité, celle qui nous introduit à faire cette expérience le mieux, c'est Marie. Avec la vraie humilité, l'humilité de Marie, je l'adore, non? Parce qu'on dit toujours, Marie humble, humble, plus que humble, c'est l'humilité parfaite, non? Et quand on chante les Magnificat, on enchaîne les versets les uns après les autres, sans trop voir de quoi il parle. Il s'est penché sur son humble servante. Verset suivant. Désormais, tous les âges, Marie, un peu plus humble, veut-tu dire quelques âges? Non. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est laisser Dieu prononcer son nom sur moi. C'est laisser Dieu me dire la valeur que m'avia pour lui. Et c'est entrer dans l'action de grâce. Ah, l'action de grâce, oui, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce, donc c'est l'action de grâce. Mais quand j'étais au Liban, il y a quelqu'un qui m'a appris que la façon dont les Occidentaux nous comprenons l'action de grâce n'est pas la même que les Orientaux. Et c'était un moine libanais qui me disait, je passe ma journée à dire mamnounak en arabe, qui signifie action de grâce. Mais il disait, quand les Occidentaux, vous, rendez grâce, vous vous acquittez d'une dette. Tu m'as fait une faveur, je te rends grâce, on est clean. Quand les Orientaux rendent grâce, c'est différent l'image de l'Eucharistie que l'on retire en étant clean, non? Ah, il dit, quand les Orientaux nous rendent grâce, nous disons mamnounak, que signifie je suis redevable à toi à vie. Ça rime un petit peu différent. C'est au cœur même de l'Eucharistie. Il me donne sa vie et je suis redevable à lui à vie. Et ce qu'il y a dans le cœur, lorsqu'on entre dans ces réciprocités d'amour, totalement différent. Ça fait respirer. Ça fait que même dans des situations difficiles, on ne tire pas un pessimisme incroyable qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va s'en sortir, mais on tire une communion de cœur qui sait, qui communie avec le Seigneur victorieux de tout le mal, même si ça coûte parfois, même si parfois c'est difficile à vivre, même si parfois, en disant la vérité, tu retires des résultats qui semblent pas être trop sympathiques, communier à Jésus dilate le cœur. Ça vaut la peine. Et ça vaut la peine d'avoir des chrétiens qui luttent encore en ce monde pour un amour vrai. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine aussi d'être des témoins. Ça, c'est une méditation que j'ai faite avec Marie sur ces deux versets. Mais ça continue, hein. Ça aide à pouvoir dire, comme Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, je me réjouis quand je souffre pour vous. Et Saint Paul, je comprends pas trop. Tu te réjouis, ça souffre, ça, c'est quoi? Combien de souffrances unies à Jésus peuvent devenir un lieu où le cœur se dilate? Combien? Je dirais toutes, mais comme parfois il y en a certains très difficiles, on dit au moins combien? Parce qu'en réalité, quand j'ai vu uni à Jésus, participer à ce qu'il vit, transfigure mon cœur, réellement. Donc, ce n'est pas le pessimisme qui va nous entraîner on ne sait pas où, c'est l'optimisme de la croix qui peut dilater nos cœurs. Ça, c'est Marguerite Marie. Quand on lit l'histoire de Marguerite Marie et qu'elle parlait de ses sœurs et comment elle souffrait en communion avec Jésus, parfois, il y a des phrases que tu dis, oh là là, ici, j'aurais pas trop envie d'entrer. Mais en réalité, à fur et à mesure que tu entres, tu découvres d'une façon surprenante jusqu'où le cœur du Seigneur qui accompagne ma vie, parce qu'il prie encore avec moi et pour moi, me fait entrer davantage dans le mystère d'amour, la science du cœur de Christ Jésus dont parle Saint Paul. Encore plus loin, dans cette école de la consécration de Jésus pour eux, il y a une autre phrase très, très, très belle que Marie nous fait voir depuis Cana, mais qui est beaucoup plus riche de ce qu'on peut imaginer. Marie n'était pas attentive à Cana, comme on veut bien dire, parce qu'elle a découvert qu'elle manquait du vin. Ça, tous les ivrognes de Cana l'avaient découvert pareil. Marie était attentive à ce que un manque, c'est toute la tradition d'Israël, un manque, peut-être le lieu privilégié où la surabondance de Dieu va rejoindre. C'est tout Israël est plein de ça, mais plein. Il a fallu des siècles et des siècles pour introduire le peuple d'Israël, donc à nous, à ce que les manque, à ce que les Égyptiens me persécutent, il y a plus que les Égyptiens. À ce que dans le désert, on est assoiffé, et il y a de l'eau qui jaillit des rochers. À ce qu'on a faim, on est rempli d'oiseaux qu'on avait pris envie de manger tant d'oiseaux. À ce que des femmes stériles ont des enfants. À ce qu'un peuple pauvre et qui ne sait pas comment gérer, parce qu'il y a des ennemis partout, le Seigneur est capable de les accompagner plus loin. Marie avait pris du temps à découvrir l'amour de son Dieu pour elle. C'est très facile, c'est pas trop de choses compliquées. Perdre du temps pour découvrir comment je suis traité par Dieu. Parce que tandis qu'il y aura des chrétiens en disant « Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, oui, mais moi non », Tout reste en suspension. Et qu'est-ce que c'est que ça, la béatitude? La béatitude, c'est pas un programme. La béatitude, d'abord, c'est là où il y a des fissures dans l'âme. Si on se tourne vers Dieu, la source nous rejoint plus riche. Si je suis pauvre, l'idéal de la béatitude n'est pas la pauvreté, sont tous pauvres. Mais si ton regard est capable de voir dans la pauvreté que tu es accompagné, la merveille de la richesse de Dieu commence à émerger dans ton cœur, non parce que ton compte courant augmente, parfois oui, mais parce qu'en réalité, cette richesse de son cœur te remplit de telle façon que tu n'as pas trop besoin d'avoir et de confier à ce compte courant. Il te libère la peur des pedres que tu as et ton cœur se dilate. Cette école, Marie était habituée, elle l'appelait consécration. Jésus était habitué, il l'appelait consécration et il dit, cela je ne le vis pas pour moi-même, ça je le vis pour que vous aussi, vous osiez entrer dans cette école. Si on n'ose pas, il ne se passe rien. Non, mais moi, si j'étais dans les conditions de béatitude, je vivrais tout. Mais les conditions, les a tous. Problème, qui n'a pas de problème? Pauvreté, qui n'a pas de trucs qui me font sentir nul. Pleurer, personne n'a pleuré ici. Non? Ce sont les conditions qu'on donne pour que les béatitudes nous rejoignent. Celui qui pleure sera consolé. Ben, moi, je pleure et personne ne me console. As-tu perdu du temps pour découvrir comment le Seigneur vit pour toi tes propres souffrances? Ah non, je ne perds pas de temps parce que j'ai trop de choses à faire. Hein? Alors, à l'école du Shabbat, cette école est essentielle et est d'une actualité incroyable parce que l'amour pur ne viendra pas de serrer le boulon. L'amour pur viendra dans l'école du Sacré-Cœur, dans le silence d'une relation, en perdant du temps pour découvrir jusqu'où nous sommes encore aujourd'hui, ici et maintenant, et que nous, si vous voulez, en bon latin, ici et maintenant, aimés par notre Seigneur, qui est capable de faire jaillir de ce qui va pas une source inépuisable d'un amour plus profond, d'une actualité incroyable. Et alors, c'est pour cela que le Seigneur se consacre lui-même, pour être consacré dans la vérité. Et après, j'ai fini déjà, parce que le temps avance, ça c'est un petit peu comme l'apéritif de ce que nous allons vivre ces trois jours. Non? Il y a dans le prophète Ézéchiel une phrase très 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 belle. Cet été m'a marqué tout l'été et encore chaque jour, je me lève dans ma prière, bon matin, avec cette phrase. C'est Ézéchiel 22, 30. Cette phrase-là, moi, me remet tous les jours dans la prière sacerdotale de Jésus. C'est Dieu qui demande, j'ai cherché quelqu'un qui se tienne debout sur la brèche. Et je n'ai pas trouvé. Y aura-t-il des hommes et des femmes qui se tiennent debout sur la brèche? Oh, c'est trop difficile. Non. Si on a perdu du temps pour découvrir la façon de faire de notre Dieu, être debout sur la brèche, l'unique personne qui m'aide à vivre ça, c'est Marie, qu'elle était debout sur la brèche. Et elle consentait au mystère d'amour de son fils. On ne lui dérobait pas la vie. Elle consentait, le mot consentement, ça renvoie à l'aboutissement de fiançailles. Consentement, communion, debout sur la brèche. Et encore aujourd'hui, il y a une espérance énorme pour notre monde. Parce qu'être debout ne signifie pas être clean ou parfait, signifie croire davantage à lui qu'à moi-même. Avec une petite nuance, qu'à fur et à mesure que nous sommes là, que nous ne fuyons pas de notre époux sur la croix, alors il se passe une chose incroyable. C'est encore de Saint Jean-Paul II, il disait, un nouveau millénaire inéunte, ça veut dire au début du nouveau millénaire, et ça fait seulement 19 ans que nous sommes au début de ce millénaire, donc ça nous concerne. Un christianisme, ça c'est très prophétique, un christianisme qui n'a pas peur d'être debout sur la brèche, pas que regarde ailleurs devant le problème, pas que essaye de dire, bon, ça va passer et après ils viendront de meilleurs temps, on ne sait pas trop. Pas de personnes endormies ou pleines de colère ou tétanisées. Il dit des chrétiens qui se tiendront debout sur la brèche comme Marie au pied de la croix en consentant un petit peu à l'amour dont nous sommes aimés. I en volant donar un petit peu de l'amour que lui-même fait jaillir dans notre cœur, il disait dans cette lettre, un christianisme comme ça, il n'y a rien à craindre, rien du tout, parce que tout le monde, des plus athées de ce monde jusqu'au coin les plus perdus de la terre, tout le monde est assoiffé d'une parole de vérité qui jaillit d'un cœur dans lequel émerge des sources d'eau vive dans les faiblesses. Et cela n'a jamais fini de jaillir du côté ouvert du Seigneur. Amen.